Ici Jocelyn Richard et je vous souhaite la bienvenue à Une note à la plume. Dans cette émission, je fais la lecture d'une nouvelle littéraire en y ajoutant des pièces musicales provenant de la scène indépendante. Aujourd'hui, deux nouvelles. Tout d'abord, Le chien Carlos de Luce Caméré-Bella. Elle sera suivie de Le dernier bonbon de Claude Marchand. C'est l'automne, il est midi, et le chien Carlos vient de naître. C'est une petite boule de poils et d'amour qui fait le bonheur de tous. Bien entouré, il prend confiance en lui. Les enfants partis à l'école, le maître décide d'entraîner le chien Carlos. Il sera gardien de troupeau de moutons. Les règles que lui enseigne son maître sont les suivantes. Tu ne cours pas après les moutons, tu ne mords pas, tu ne jappes. Tu surveilles, tu protèges et tu ramènes les brebis à la bergerie le soir. Mais si elle se sauve, maître, si elle se sauve, comment ferais-je pour qu'elle m'obéisse? N'aie pas peur, chien Carlos. Tu t'occupes d'en ramener une, tu la regardes droit dans les yeux et les autres suivront. Ou bien tu leur expliques. Mais maître, maître, je ne connais pas la langue des moutons. Bêler, c'est pas mon fort. Ce n'est pas nécessaire, chien Carlos. Tu connaîtras bientôt un langage universel. Ce langage s'appelle la patience. C'est un langage très, très long à maîtriser. C'est une clé unique. Laissé seul à lui-même, le chien Carlos se sent déprimé. Son avenir lui semble incertain. « Pas sûr d'aimer ça, gardien de mouton. J'aimerais mieux être amuseur d'enfants, même si je m'ennuie lorsqu'ils partent. Gardien de mouton, je serai jamais seul. » C'est un job à plein temps, jour et nuit. Par contre, je dormirai au chaud dans la bergerie avec eux. Ça garde au chaud, les moutons. Le chien Carlos lâche un grand soupir avant de s'atteler à la tâche. Il apprend à compter jusqu'à 10. Il doit avoir les yeux partout à surveiller constamment. Aussi, la nuit, il fait des cauchemars où il attaque les moutons un par un. Il s'éveille en sursautant et se rendort en comptant les moutons. Avec le temps, la vie finit par s'organiser dans la bergerie qui est devenue un lieu de repos et de calme. Tout baigne dans l'huile. Le chien Carlos identifie les moutons par leur caractère. Il y a Finette, qui se pavane, qui se vante que sa laine est plus douce et plus jolie. Il y a aussi Frisottine, qui pose ses bigoudis le soir, et Tardif, qui arrive toujours le dernier. Quant à Vindic, il critique tellement qu'il n'y a plus personne pour l'écouter. Il y a les jumeaux Bossé, complices et querelleurs, et le trio des rigolotes qui se moquent de tout et adorent jouer des tours au chien Carlos. Il y a surtout la petite dernière, toute mignonne, tellement jolie et attendrissante que même Vindic oublie de bougonner lorsqu'il la regarde. Le chien Carlos l'a trouvée un matin en sortant ses moutons. Lorsqu'il a réalisé qu'elle était trop jeune pour marcher, il l'a transportée dans sa gueule toute la journée. Au retour, il lui a fait une belle toilette en la léchant et en la nettoyant proprement, et après il l'a installée confortablement près de lui. Les moutons rigolent. Ils croient que le chien Carlos est devenu gâteux. « Le chien Carlos a une montée de lait !» proclame Rigolote troisième. « Ha! Une montée de lait !» et de rire tous les moutons. Le chien Carlos commence à en avoir assez de ses moutons qui lui font une vie dure et assommante. Il se sent près d'eux et en même temps loin d'eux. Ils ne travaillent jamais. Ils ne font que boire et manger. Ils attendent la tonte. Le chien Carlos les incite à cesser de se plaindre. « Ça vous fait juste du bien. C'est moins chaud pendant l'été et vous avez moins de mouches qui vous tournent autour. » Le chien Carlos se couche près de sa petite en se consolant. Il trouve qu'elle a une odeur particulière. Elle ne sent pas encore le mouton. Elle sent le chien Carlos. Elle a un duvet tout doux, tout doux. Elle frissonne de froid et de crainte. Le chien Carlos la rassure en lui parlant tout bas, et la petite ne tarde pas à singer tout ce qu'il fait. Le chien Carlos pense à sa vie, toute une vie de responsabilité, toute une vie à se battre, à gagner sa pitance, toute une vie sans connaître l'amour. Le chien Carlos a le cœur gros. Il pleure. Depuis quelque temps, ses yeux lui jouent des tours. La petite entend sa peine et pour le consoler, lui mordit le cou et dans l'oreille droite lui jappe de jolies chansons. Les douces chansons de sa maman. Le chien Carlos se reconnaît dans la petite. Pour la première fois, il connaît l'amour et la tendresse. Le maître est content. Pressentant la tristesse du chien Carlos, il lui avait envoyé la petite chienne Bonheur pour le récompenser. Le grand éclair tant redouté balaya soudainement la noirceur qui nous enveloppait depuis des mois. Selon une croyance très ancienne, notre destinée venait d'emprunter l'implacable chemin de la mort. L'apparition de la lumière éblouissante fut suivie d'un tremblement de terre qui secoua notre sacni plastique. Vivant dans le haut, moi, Baha le délicieux, j'ai vu les crocs d'un horrible U-monstre déchirer les parois de notre maison. Prisonnier de deux pinces et ballotté comme un vaisseau en perdition, notre sacni, endommagé, arrêta sa course folle au-dessus d'une table et nous fûmes lâchés dans une bonbonnière. Dans la chute vertigineuse, trois bonbons innocents éclatèrent, dont l'un en plusieurs morceaux. Tombés à l'extérieur, deux autres malchanceux disparurent probablement engloutis dans une gueule monstrueuse. Je me retrouvai au fond, entouré de congénères que je n'avais jamais touchés, mais à côté de Balu l'exquise. Je reprenais lentement mes esprits lorsqu'une vibration affectueuse de mon ami transperça ma robe de papier et me caressa doucement le flanc droit. Ragaillardi, je me présentai à mon entourage et nous fîmes une danse de frémissements amicaux. Nos efforts se portèrent sur Bakri le Suave, cassé en deux dans son enrobage. Puis, d'un bonbon à son voisin, en concentrant nos énergies vers le dernier toucher, nous réussîmes à reconstituer une chaîne affective et à retrouver notre solidarité familiale. Ce rassemblement forcé dans l'antichambre de la mort créa une fraternité nouvelle. Ces liens plus intenses nous donnèrent le sentiment que jamais, depuis sa création, la famille des babons en sucre d'orge, issus de la cuisson SO-1143, n'avait jamais atteint une telle cohésion et une telle force. Nos meilleurs sentiments allaient aux congénères du haut qui risquaient de nous quitter à tout moment. La moindre silhouette projetée sur la paroi de verre jaune nous paralysait d'effroi. Elle annonçait bien souvent un soulèvement immédiat du dôme de la bonbonnière, suivi de la capture de l'un et parfois de plusieurs d'entre nous. Une fois, nous vîmes quelques têtes de U-monstres et plusieurs pattes de pinces de diverses grosseurs s'emparèrent d'une dizaine de babons en quelques instants. Je perdis ainsi tous mes délectables prochains, y compris ma grande amie, Balu l'Exquise.
He may not know, he may not want to see what I'm seeing. He may not.
Longtemps, trop longtemps, je restais seul dans la bonbonnière. Privé des vibrations affectives de mes amis, je vivais dans une solitude de plus en plus insupportable. J'avais l'impression de subir l'affreux supplice de la dissolution, tellement je me morfondais. La joie d'avoir été épargné fit place au désir d'être délivré de cette vie insensée. En même temps, je redoutais l'apparition terrifiante des pinces. Torturé par cette ambivalence profonde, je me réfugiais alors dans les souvenirs heureux de mon existence. Perdu dans mes pensées, je ne sentis pas le soulèvement du dôme. La chute inopinée d'un bonbon qui atterrit près de moi me fit sursauter. Hébété, je ne réalisais pas tout de suite le caractère insolite de la situation. Non seulement je n'avais pas été capturé, mais j'étais toujours vivant. J'avais même un nouveau compagnon. Une vibration affective me sortit de la torpeur. Mon nom est Durba 7, le succulent. Je suis un bonbon au beurre de la cuisson BR1644. Et toi, qui es-tu? Je me présentai et lui racontai l'histoire navrante de la cuisson dont j'étais hélas le dernier descendant. Il me répondit d'une façon à la fois ironique et condescendante. « Pauvre Baha, d'où vient cette appellation babon aussi ridicule et surtout dégradante pour ta lignée? Sache que nous sommes des bonbons, les êtres les plus délectables et les plus irrésistibles de la création, et que nous occupons de ce fait un rang très élevé dans la hiérarchie universelle. Dans quel monde vis-tu avec tes humonstres, pattes et pinces? Ce sont plutôt des humains qui se servent de leurs mains et de leurs doigts pour nous prendre, nous enlever notre enrobage et nous mettre dans leur bouche. » Je n'eus pas le temps de lui expliquer que ces expressions appartenaient à la tradition des sucres d'orge et qu'elles étaient transmises de cuisson en cuisson. Il s'empressa de me livrer des informations stupéfiantes sur la conception de ces redoutables créatures. Contrairement à nous, les humains sont des êtres qui se créent eux-mêmes. Ce sont les femelles qui cuisent dans leur corps un petit humain appelé bébé. La fabrication préalable, communément appelée étape du mélange, est effectuée par le mâle et la femelle. Après avoir enlevé leur enrobage, les deux partenaires réalisent une vibration qui nécessite beaucoup d'énergie. Ils se frottent frénétiquement l'un contre l'autre en émettant des gémissements et des cris. Leurs ébats produisent un liquide appelé sueur qui constitue l'essence de base du futur humain. Ils doivent répéter cet échange plusieurs fois pour s'assurer le développement progressif du bébé. Lorsqu'on estime qu'il est à point, le petit est évacué de sa mère et il peut commencer une vie autonome. Mon évidente curiosité encouragea Durba 7 à me tenir d'autres propos sur ces étranges personnes. J'appris ainsi que les humains ont besoin d'assimiler l'essence d'autres entités pour assurer leur croissance et que les bonbons constituent leur nourriture vitale. Dans le récit fabuleux de mon savant compagnon, j'ai vu le petit se précipiter sur les mamelons de sa mère et le sucer avidement pour en extraire le délicieux nectar de nos essences. J'ai assisté aussi à l'entraînement à la sucette pour sevrer le bébé de son besoin inné et insatiable de bonbons, pour lui apprendre graduellement à ne pas les avaler et pour l'amener à accepter d'en être privé, parfois durant plusieurs heures.
Thank you. glorious dust to dust. This is the hell on earth where in gods we're never trust again. It's time. Bring only what you need. I don't care where I'm going, but I won't be without you. It's time. Bring only what you need. I don't know where I'm going, but I won't be without you.
À peine avais-je saisi notre rôle indispensable dans la vie des humains, que Durba VII me transmit une révélation incroyable sur leur importance dans notre vie de bonbons. L'humain n'est qu'un réceptacle obligé permettant la réalisation ultime de notre destinée, mélanger nos essences. Sucré et avalé par lui, mon cher Baha, tu couleras en lui une vie paradisiaque, en symbiose avec tes congénères de toutes les saveurs inimaginables. Quelle joie intense de songer à me régaler éternellement de Balu l'exquise. Devant mon inquiétude sur la pérennité de cet Éden, mon maître consentit à révéler un des moyens utilisés pour s'en assurer, le culte de Braal. La légende enseigne que ce dieu était, à l'origine, un être mi-bonbon, mi-humain. Il aurait finalement choisi de s'incarner sous une forme humaine pour rappeler à ses semblables l'importance de l'intelligence et de l'amour des bonbons qui composent l'être humain et lui permettent de vivre. Indispensable maître spirituel, le Braal prêche la bonne parole à ses fidèles qui se réunissent régulièrement dans un temple rempli de bonbonnières débordantes. D'un geste solennel, chaque convive prend un bonbon et il le suce avec une dévotion propice à l'accueil des paroles sacrées de son Dieu. « Je vous ai apporté des bonbons, car des fleurs c'est périssable, et des bonbons c'est tellement bon. » Transporté au plus profond de mon essence par la vibration chantante de Durba VII, je ne sentis pas le dôme s'ouvrir brusquement. À peine ai-je eu le temps de réaliser la disparition subite de mon dernier compagnon, entrer dans un humain en psalmodiant l'hymne à la gloire des bonbons. De nouveau, seul dans la bonbonnière, j'attends mon ascension vers la bouche enchanteresse, avec angoisse et impatience. Durba VII, le succulent, m'a révélé l'essentiel de ma destinée. Je crois que ce bonbon au beurre, généreux et instruit, jouit actuellement d'une félicité éternelle au paradis du corps humain, en se délectant des essences des bienheureux. S'il m'arrive parfois de subir les affres du doute, j'invoque le Braal, le priant de venir me délivrer. J'espère, non, je suis certain, que bientôt je savourerai ce moment. C'était Le dernier bonbon, de Claude Marchand. C'est paru en 2001 dans la revue Brève littéraire, numéro 58. Juste avant, c'était Le chien Carlos, de Luce Camiré-Bella, aussi de la revue Brève littéraire, mais cette fois numéro 65, paru à l'automne 2003. Vous avez entendu des pièces de Cabane, Perfume Genius, JFDR et The Deers. Je vous invite à aller faire un tour sur le site web de l'émission à unenoteàlaplume.com pour avoir plus de détails sur les artistes et les auteurs qui sont en vedette chaque semaine. Ici Jocelyn Richard, c'était Une note à la plume. À la semaine prochaine.